nous n'en sommes plus, pourrions-nous dire, à la physique de papa. Nous avons largement débordé le cadre de cette physique très classique que nous avons connue au lycée. Que devient-elle maintenant?
La physique quantique est née dans les derniers 15 jours du siècle dernier. Elle est née le 14 décembre 1900, sous la signature devenue célèbre de Max Planck. Ce qui s'était passé, c'était ceci, c'est que la mécanique classique triomphait depuis déjà deux siècles, l'électromagnétisme de Maxwell, qui rassemblait à la fois l'électricité, le magnétisme et l'optique, était devenu une chose très puissante, qui venait de découvrir même les ondes de radio, et la science à ce moment-là passait pour être plus ou moins achevée.
On cite souvent cette phrase d'Emmanuel Kant, « L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. »
Le maître de Max Planck, lorsque son élève lui a dit qu'il avait envie de faire des recherches en physique, lui a dit que c'était dommage parce qu'il était un garçon très intelligent qui aurait pu faire des grandes choses, mais que malheureusement, il n'y avait plus que des petits détails à ajouter dans la physique telle qu'elle était.
Je ne sais pas non plus si elle est vraiment d'Emmanuel Kant, j'ai cherché la référence exacte et je ne l'ai pas trouvée.
On peut dire que la physique quantique, c'est les lois du monde à toute petite échelle. Comment ça marche un atome, comment ça marche un électron? Et en fait, il ne fonctionne pas exactement comme ce dont on a l'habitude dans la vie de tous les jours.
L'entropie est statistique et au contraire, les effets auxquels s'intéressait à ce moment-là Einstein étaient des effets microscopiques. Il a indiqué que lorsque un rayonnement agissant sur de la matière en extrayait un électron par effet photoélectrique, cet électron devait avoir une énergie que l'on pouvait calculer tout simplement en écrivant que le quantum de lumière qui avait été absorbé était utilisé d'une part pour donner à l'électron de l'énergie cinétique, le mouvement de l'électron, et aussi d'autre part utilisé pour l'extraire de la matière dans laquelle il était inclus à ce moment-là. Autrement dit, le quantum H nu était égal au travail de sortie de l'électron plus l'énergie cinétique de l'électron lorsqu'il est effectivement dans son mouvement.
C'est en effet en 1900 que le grand physicien Max Planck, mort à la fin de 1947, à l'âge de 89 ans, a le premier, dans ses travaux théoriques sur le rayonnement noir, introduit dans la physique la notion, le quantum d'action, appelé à y jouer si rapidement un rôle fondamental.
Nous sommes obligés, à mon sens, de fabriquer de l'hétérogène, ce qui est totalement contradictoire à la nature humaine. Mais nous voyons bien que nous avons à travailler dans l'hétérogène. Moi, j'appelle ça les failles. J'appelle ça comment introduire des failles dans les espaces. Comment introduire des lectures de différents temps dans l'espace. C'est ce que j'essaie de faire dans mes réalisations depuis maintenant une quinzaine d'années.
Si l'on considère une enceinte maintenue à température uniforme, les corps matériels qui y sont contenus émettent et absorbent du rayonnement et il règne dans l'enceinte un état d'équilibre dans lequel les échanges continuels d'énergie entre la matière et la radiation ambiante se compensent en moyenne. En s'appuyant uniquement sur les principes fondamentaux de la thermodynamique, Kirchhoff a montré que cet état d'équilibre est unique et correspond à une composition spectrale parfaitement déterminée du rayonnement présent dans l'enceinte.
Nous, pas dire que nous mesurons, mais nous pouvons évaluer des dimensions qui peuvent être aussi basses que 10 puissance moins 23 cm.
C'est absolument
10 puissance moins 9, je rappelle que 10 puissance moins 9, c'est le milliardième.
Oui.
10 puissance moins 18, c'est le milliardième, 2 milliardième.
Mais jusqu'où ira-t-on comme ça, monsieur?
Eh bien, peut-être n'ira-t-on pas indéfiniment, puisque certaines théories de la physique semblent indiquer qu'il existe une longueur minimum, au-dessous de laquelle il n'y a plus de physique.
De plus, la composition de ce rayonnement dépend uniquement de la température de l'enceinte, et aucunement des dimensions et de la forme de cette enceinte, ni des corps qui y sont enfermés ou qui en constituent les parois. Le rayonnement d'équilibre qui caractérise la température et est souvent nommé assez improprement le rayonnement noir correspondant à cette température.
Les formules mathématiques déduites de la mécanique classique dans l'étude du rayonnement d'énergie par les corps chauffés au blanc étaient en total désaccord avec l'expérience.
Puis, par un raisonnement plus compliqué, M. Wien avait pu préciser davantage comment l'énergie se répartit entre les diverses longueurs d'onde présentes dans le rayonnement noir. Malheureusement, il subsistait dans la formule donnée par Wien une fonction arbitraire que son raisonnement thermodynamique ne permettait pas de déterminer.
Par exemple, un électron, tant qu'on ne le mesure pas, c'est une espèce de nuage. Puis quand on le mesure, soudain, il se réduit en un point. Et puis, il subit des sortes de sauts étranges. On parle de quantification. Donc, toutes ces lois, elles échappent à notre intuition, mais elles sont parfaitement décrites et comprises par la physique quantique.
Pour un corps de masse M, qui se déplace avec la vitesse V, cette énergie cinétique, cette force vive, vaut 1/2 de mv2, comme on l'apprend dans tous les éléments. Or, pour apprécier une vitesse, il faut diviser l'espace parcouru par le temps employé à le parcourir. Toutes les valeurs qui permettent de calculer la vitesse sont donc par conséquent admissibles et elles obéissent à la double intuition du continu de l'espace et du continu du temps.
Le Mazer, né en 1954, était un appareil de radioélectricité mettant en œuvre un des grands principes de la physique quantique, découvert par Einstein et connu sous le nom d'émission stimulée. Avant de décrire dans notre prochaine causerie les grandes lignes de ce phénomène, il est essentiel de dresser un tableau succinct de l'évolution de la radioélectricité, de façon à comprendre pour quelles raisons il a fallu attendre si longtemps la réalisation d'appareils d'électronique quantique.
Oh, je ne vous expliquerai pas en détail la vision du monde par les physiciens. D'ailleurs, le congrès de Trieste n'en a examiné, disons, qu'une partie, c'est-à-dire essentiellement la théorie des quantas, la théorie quantique de l'atome, des particules élémentaires, en l'étendant d'ailleurs jusqu'aux étoiles et aux galaxies. Mais il s'agissait de la physique fondamentale, des particules élémentaires, des atomes, des noyaux d'atomes et des étoiles, et particulièrement des étoiles qui sont constituées de neutrons aussi proches les uns des autres qu'ils le sont dans le cas d'un noyau d'atomes. Et c'est pourquoi on les appelle des étoiles à neutrons.
Un appareil de radioélectricité destiné à fonctionner en ondes sinusoïdales, qu'il soit amplificateur ou oscillateur, comporte d'abord un circuit oscillant dont la fréquence propre détermine la fréquence de fonctionnement du montage, ou, si on veut, ce qui revient au même, sa longueur d'onde. Le montage comporte ensuite une source d'énergie, et enfin un relais, qui, à chaque oscillation, injecte un peu d'énergie dans le circuit oscillant, de façon à compenser les pertes.
C'est l'application par Bohr, Niels Bohr, des quantas au modèle planétaire d'atomes, qui avait été proposé par Rutherford, qui a été à l'origine de cette extraordinaire explosion de travaux, de découvertes, qui ont modifié si profondément nos conceptions de la matière et des relations entre la matière et l'énergie rayonnante.
Donc je pars du principe que les équations de la physique quantique sont exactes. Et elles contredisent ce que montrent les clichés des chambres à bulles. Et ce que se dit Heisenberg, c'est qu'en fait, il se souvient d'une phrase que lui a dite Einstein. Einstein lui a dit « Seule la théorie permet de décider ce qui est observable ».
Il faut se souvenir que dès 1900, Max Planck avait proposé l'hypothèse des quantas. Seulement, à ce moment-là, il avait présenté les quantas comme étant des grains d'échange, si on peut dire, des éléments d'échange entre la matière et la lumière. Il présentait les quantas comme étant les moyens par lesquels la lumière peut influencer un oscillateur ou par lesquels un oscillateur peut émettre de la lumière. Il ne pouvait les mettre que suivant ce dispositif spécial de l'émission par élément de grandeur H nu, fréquence multipliée par le quantum d'action.
La physique théorique est entrée dans un domaine complètement nouveau, qui est celui de la structure, par la découverte de la théorie des quantas, c'est-à-dire la structuration de l'énergie que l'on croyait être continue, structuration qui comporte maintenant une liaison extrêmement étroite entre la structuration de l'énergie, la structuration de la matière, et peut-être même la structuration du champ de gravitation, car à l'heure actuelle, on étudie avec beaucoup d'intensité la théorie quantique du champ de gravitation. Alors que depuis Newton et même Einstein, l'on considérait que la gravitation était surtout une grande loi continue.
Ce qu'Einstein a fait, c'est d'amener ceci beaucoup plus près des réalités tangibles, si j'ose dire. Et il s'est fait presque, si on peut dire, le Saint Paul de cet évangile. Il y avait une grande théorie et il l'a amené aux réalités. Il a dit, eh bien, comment ça se passe-t-il en réalité, en fait ? Et il s'est aperçu qu'à ce moment-là, il fallait On était conduit à imaginer non pas seulement que les quanta étaient des éléments d'échange, mais étaient des réalités dans la lumière elle-même. C'est-à-dire que lorsque un quantum de rayonnement était émis par un oscillateur, eh bien, il s'en allait dans l'espace comme un élément de lumière, comme un morceau d'un grain d'énergie de lumière. Oui, et il les a appelés les Lichtquanta, ce qui veut dire en allemand quanta de lumière.
Nous avons tiré littéralement du néant des centaines et des centaines d'autres particules, des particules qui sont intéressantes parce qu'elles portent en elles toute l'information de leur propre interaction. Et ces interactions multiples, quatre interactions physiques, portent en elles les secrets, si on peut parler d'un secret, des secrets de l'univers lui-même.
Bien qu'en physique, 1905, ce n'est pas que les débuts de la relativité, c'est aussi les débuts de la théorie quantique, et tout ça grâce à un seul homme, qui n'avait que 26 ans à l'époque d'ailleurs, Einstein.
Nous allons montrer que le quantum est le discontinu inscrit en quelque sorte dans les aspects temporels et non plus simplement spatiaux des phénomènes. La notion de quantum, quantum d'action, quantum d'énergie, est une notion qui heurte toutes nos intuitions d'espace et de temps.
La grande innovation apportée par Bohr a été un essai de combiner le modèle d'atomes de Rutherford, qui était un modèle entièrement classique. C'était le modèle d'après lequel l'atome était composé d'un noyau de très petite dimension autour duquel des électrons parcouraient des orbites keplériennes, étant donné que la force de Coulomb, qui les rattachait au noyau, avait la même forme que la force de gravitation qui lie les planètes au Soleil.
Pour lui, la loi de Planck résultait simplement de l'équilibre statistique entre l'émission et l'absorption des photons avec la matière. Et cet équilibre était un équilibre microscopique. Il se déroulait au niveau des éléments atomiques et des éléments composant la lumière. On peut d'ailleurs mentionner qu'à ce sujet, que dans ce travail, Einstein a posé pour la première fois ce que l'on appelle le principe de micro-réversibilité, c'est-à-dire que la probabilité à l'échelon purement microscopique pour qu'une réaction ait lieu qui conduise d'un système d'un état A à un état B est strictement égale à la probabilité inverse pour que le système passe de l'état B à l'état A.
D'une certaine manière, le fait que les lampes au sodium émettent une lumière jaune, que vous connaissez bien, on la voit sur les routes, et il s'agit de deux raies bien caractéristiques, c'est évidemment un effet quantique. En effet, le quantum, ou grain d'énergie, pour employer l'expression de Jean Perrin, aurait pu être découvert directement lors de l'étude de l'effet de la lumière sur certaines surfaces métalliques, auxquelles cette lumière arrache de temps à autre des électrons. C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. De temps à autre, pas régulièrement. Même si le flot de lumière frappant le métal est rigoureusement constant, les électrons sortent seulement de temps à autre et de façon et au hasard, sans qu'il y ait de règles.
La mécanique quantique empêche de connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule.
Pour aller plus loin, il fallut, on s'en aperçut bientôt, quitter le terrain très solide du raisonnement thermodynamique et à l'aide d'hypothèses sur la structure corpusculaire de la matière, analyser la façon dont celle-ci émet ou absorbe les radiations. À la vérité, la chose ne paraissait pas très difficile, car la théorie électromagnétique, sous la forme que Lorentz venait de lui donner en introduisant dans cette théorie la notion d'électron, offrait une image qui semblait satisfaisante du mécanisme de l'émission et de l'absorption par la matière. Il n'y avait donc, semblait-il, qu'à se servir des formules qu'elle fournissait pour trouver la forme de la fonction laissée indéterminée par le raisonnement de Wien et pour préciser ainsi complètement la répartition spectrale du rayonnement noir.
On parle de l'ancienne et de la nouvelle théorie des quantas. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on parlait de la nouvelle théorie des quantas qui était celle de Heisenberg et d'autres. Mais la première était celle de Bohr et Sommerfeld.
Le résultat de ce travail fut tout à fait décevant. La loi de répartition spectrale ainsi obtenue, appelée loi de Rayleigh, se révèle comme en complet désaccord avec les résultats de l'expérience. Elle annonçait en effet une augmentation continue de la densité spectrale du rayonnement noir en fonction de la fréquence, alors que l'expérience montre au contraire que la densité spectrale, après avoir atteint un maximum pour une certaine fréquence, diminue ensuite indéfiniment quand la fréquence augmente.
Le principe qui a alors guidé Bohr et ses collaborateurs, notamment Cramer, son principal collaborateur de ces années-là, a surtout étudié et a énoncé les lois des intensités des différentes lignes spectrales émises dans ces transitions. C'est ce qu'il a appelé le principe, ou plus exactement l'argument de correspondance.
C'est l'origine de la fameuse dualité onde-corpuscule qui devait avoir un grand avenir parce qu'elle envahit toute la physique. Un peu plus tard, en 1920, on s'est aperçu que non seulement la lumière était à la fois ondulatoire et corpusculaire, mais que les électrons, c'est-à-dire la matière, telle que la vraie matière, étaient elles aussi de double nature, à la fois corpusculaire, ce qu'on savait depuis toujours, et ondulatoire, ce que l'on découvrait, ce qu'a découvert De Broglie.
Sans nier l'existence de cette émission aléatoire, de cette émission spontanée, Einstein en a introduit un second, l'émission stimulée, dans lequel l'atome tombait du premier étage au rez-de-chaussée lorsqu'un autre photon venait, si l'on peut dire, le pousser, venait l'exciter, venait le stimuler. À ce moment-là, on a retrouvé à la sortie deux photons, le photon initial, celui qui avait poussé l'atome, et le photon qui venait d'être émis par l'atome qui tombait.
Remarquez que nous ne connaissons les quanta que par leurs effets, par les échanges d'énergie auxquels ils donnent lieu avec des électrons ou des atomes.
Ce qui subsistait du modèle classique, c'était, ça paraît un peu paradoxal, c'était la fréquence, mais la fréquence qui ne correspondait pas à l'image que nous faisons d'une trajectoire parcourue avec cette fréquence. Finalement, Bohr et ses collaborateurs, et notamment Cramer et Heisenberg, étaient persuadés que le modèle classique n'avait plus qu'une ombre de subsistance et qu'il servait tout au plus à guider justement la recherche vers la formulation de règles purement abstraites.
Ceci était important parce que les deux photons qui étaient émis étaient nécessairement associés à des ondes, et ces ondes étaient nécessairement en phase. Il y avait ce qu'on appelle une cohérence de phase entre l'onde qui était associée au photon qui venait stimuler et l'onde qui était associée au photon qui venait d'être émis. Et alors ceci est très important parce que c'est la découverte, c'est tout au moins l'origine de la découverte des appareillages que l'on nomme aujourd'hui des lasers ou des masers.
L'hypothèse de ces échanges discontinus de lumière avec la matière ont pris corps dans la théorie de Niels Bohr de l'atome, où Bohr est parvenu à construire un modèle d'atome à l'image du système planétaire, le noyau atomique occupant la place du Soleil et des électrons occupant celle des planètes, et il a imaginé un modèle d'atome dans lequel les électrons auraient, à l'époque, disait-on, des trajectoires privilégiées.
Finalement, Einstein est arrivé au seuil de la mécanique ondulatoire, puisqu'il a posé la dualité entre les ondes et les corpuscules. Il s'est arrêté juste au moment où la chose devenait très intéressante.
Donc Bergson pose la continuité du réel et cette continuité fondamentale du réel, qu'il s'agisse de l'éternité ou de la matière, change perpétuellement d'aspect. Elle est essentiellement hétérogénéité et succession. Une continuité mouvante nous est donnée où tout change et demeure à la fois. Et Jean Kelevitch avait fort bien remarqué que pour Bergson est réel tout ce qui est perçu ou perceptible. La fameuse formule de Berkeley a toute sa valeur ici. Être, c'est être perçu.
De Broglie a émis l'hypothèse que non seulement la lumière serait dualistique, c'est-à-dire à la fois ondulatoire et corpusculaire, mais que la matière tout entière, donc tout ce qui nous entoure en définitive, posséderait la même structure, et de même que dans les ondes déjà admises pour la lumière, Einstein a mis des corpuscules, à l'inverse de Broglie, dans les particules déjà admises dans la matière, dont la structure atomique était tout à fait avérée, dans ces particules, il a injecté des ondes.
Et, en effet, la question fondamentale que pose Bergson dans Matière et mémoire nous met-elle au cœur même de la durée et du mouvement réel ? Cette question est celle-ci. La question est de savoir si les mouvements réels ne présentent entre eux que des différences de quantité, ou s'ils ne seraient pas la qualité même, vibrant pour ainsi dire intérieurement, et scandant sa propre existence en un nombre incalculable de moments.
La physique dont nous disposons s'applique dans certaines conditions, enfin, la relativité générale s'applique à condition que la température, la densité ne soient pas trop grandes. Donc, comme on sait que dans le passé de l'univers, densité et température étaient précisément très grandes, on n'a pas le droit d'appliquer la relativité générale, on n'a pas le droit d'appliquer nos connaissances physiques, donc on ne peut rien dire, donc on ne peut même pas parler de l'événement Big Bang, c'est-à-dire de cet instant un peu mythique, et encore moins de ce qui est avant. Donc, je dirais, la physique n'a rien à dire là-dessus, elle ne connaît rien.
On a beaucoup écrit et parlé de ce paradoxe quantique. Personnellement, je crois qu'il n'y a pas de paradoxe quantique. Il n'y a que des paradoxes de notre monde à nous. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que le monde quantique est très cohérent, mais les paradoxes apparaissent au moment de la traduction d'un monde à l'autre. Et les traducteurs, c'est nous-mêmes, bien évidemment, ce qui met en question justement la logique, c'est-à-dire la question des normes de la vérité. Après tout, toute science, tout discours, toute action sous-tend une certaine logique.
Schrödinger a tenté de représenter une situation que lui-même qualifie de burlesque, dans laquelle un chat est enfermé dans une boîte avec un matériau radioactif, lui-même relié à un marteau, et le marteau étant capable de tomber sur un flacon d'acide prussique. Si le matériau radioactif se désintègre durant l'heure de l'expérience, le marteau tombe, l'acide prussique est libéré et le chat meurt.
Si on considère ces points de vue, effectivement, il y a une solution relativement simple à ces problèmes de paradoxes quantiques. Et cette solution simple passe par l'abandon d'un des axiomes de la logique classique, l'axiome du tiers exclu. C'est quoi le tiers exclu ? On dit qu'il ne peut pas y avoir un troisième terme, disons T, T avec majuscule, un troisième terme, qui soit à la fois A et non A, quelque chose et son contraire.
Si par contre le matériau radioactif ne se désintègre pas, et on suppose qu'il a une chance sur deux de se désintégrer et une chance sur deux de ne pas se désintégrer, si donc il ne se désintègre pas, le chat reste vivant. Or, Schrödinger considère donc la description quantique de cette situation étonnante. La description quantique de cette situation étonnante est la suivante. Le vecteur d'état qui représente l'ensemble de tout ce qui se trouve dans la boîte, à savoir le matériau radioactif, le marteau, le flacon d'acide prussique et le chat, est une superposition linéaire de deux états. Premier état dans lequel le chat serait vivant, et deuxième état dans lequel le chat serait mort.
Objet quantique, mécanique quantique, nombre quantique, transition quantique, niveau quantique, électronique quantique, générateur quantique, liquide quantique, statistique quantique, optique quantique, chimie quantique, électrodynamique quantique, théorie quantique des champs, horloge quantique, métrologie quantique, biochimie quantique, biologie quantique, cybernétique quantique, logique quantique, cosmologie quantique.
En aucune façon, la théorie quantique n'indique quelle est la solution qui va être retenue par l'ensemble du système. Or, remarque Schrödinger, lorsque l'on observe le chat, il n'est pas mis à moitié mort et à moitié vivant, il est nécessairement soit l'un soit l'autre. Par conséquent, dit-il, il semble que la mécanique quantique ne permette pas, grâce à son vecteur d'état, de décrire la réalité au sens faible qu'il a retenu, à savoir la réalité observée empirique.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on ne sait rien. On sait que si on voulait parler de ces instants du Big Bang qui ont immédiatement suivi ou précédé, eh bien, il faudrait une théorie qui arrive à synthétiser à la fois relativité générale et physique quantique, ce dont on ne dispose pas. Mais ça n'empêche pas que beaucoup de physiciens réfléchissent là-dessus, réfléchissent sur ce problème d'essayer d'envisager ce que serait la gravitation quantique. La gravitation, c'est ce qui est actuellement décrit par la relativité. Si on veut faire la synthèse des deux, on va donc arriver à une gravitation quantique.
Un des beaux cas de figure de conquête, par exemple, que j'ai étudié dans l'histoire de la chimie, que j'ai écrit avec Bernadette Bensoud, c'est la manière dont la mécanique quantique et dont les spécialistes de physique quantique redéfinissent les problèmes fondamentaux de la chimie, donc dans la première moitié du XXe siècle. Depuis, la chimie est devenue le modèle même, celui que discutent tranquillement les philosophes, de science réduite.
Les états des systèmes physiques reflètent en quelque sorte les propriétés de symétrie du milieu, les propriétés de symétrie du système, les propriétés d'ordre et de désordre que l'on trouve dans la matière. Et ce sont ces propriétés de symétrie et plus généralement les propriétés particulières qui sont liées à l'ordre et le désordre qui sont très souvent exploitées d'une manière consciente et d'une manière très efficace dans des dispositifs de la physique du solide.
Bergson voulait réduire le principe de la relativité à la relativité du mouvement. Or, ce n'est qu'un aspect de la question. Le principe de la relativité affirme d'abord l'invariance des lois pour tous les systèmes de référence. Et cette invariance reçoit, dans la pensée physique, n'est-ce pas, une portée d'objectivité évidemment bien supérieure à celle des mesures faites dans un seul système.
La difficulté qu'on aurait à faire de la gravitation quantique ou de la cosmologie quantique, c'est que ça n'est plus le cas. C'est-à-dire on n'a plus un cadre préexistant d'espace et de temps. Et par exemple, bon, tout le monde sait qu'en relativité générale, il y a une propriété assez curieuse qu'on appelle la courbure de l'espace-temps. Bon, c'est quelque chose d'assez mathématique, d'assez difficile à comprendre, mais on peut essayer d'envisager ça comme, par exemple, appliqué à l'espace, comme une véritable surface qui est courbée.
On peut, quand on connaît les principes de la mécanique ondulatoire, arriver à une description détaillée des diverses sortes d'atomes et de molécules, et ainsi rendre des services considérables à la chimie, parce qu'on précise considérablement la structure des corps. Ceci en particulier a permis d'interpréter la notion de valence, c'est-à-dire le fait que chaque genre d'atome possède comme un certain nombre de crochets, qui leur permettent de s'accrocher à un nombre plus ou moins grand d'autres crochets, d'autres atomes. Cette notion est classique en chimie, mais son interprétation restait assez obscure. Dans ce domaine, la mécanique ondulatoire a pu obtenir toute une série de résultats très considérables qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle la chimie quantique.
On peut dire, comme il le dit lui-même en 1935, que la mécanique quantique ne décrit pas la réalité sous forme d'un ensemble de faits effectivement réalisés, mais elle a décrit sous forme d'un catalogue d'énoncés conditionnels.
En fait, la rotation d'une toupie lancée par un enfant est quantifiée, mais les gradins de vitesse sont si petits que la rotation nous paraît varier de façon continue. Aucun dispositif de mesure ne permet, dans un cas comme celui-là, la rotation d'une toupie ou d'une roue de machine, ne permet de déceler des changements discontinus de vitesse de rotation. Cependant, nous savons qu'ils existent.
Eh bien, ces concepts, lorsqu'on y réfléchit, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et notre réflexion à propos du groupe Chronos s'articule sur le temps. Pourquoi ? Parce que le concept de temps, je crois, est utilisé dans toutes les branches de la science, pas toujours de la même manière, mais ce qu'on appelle le temps en mécanique ou en physique statistique, en thermodynamique, en relativité, en physique quantique, ça n'a pas exactement le même rôle. Est-ce que ça a le même sens? Est-ce que ça a la même signification? C'est une question qu'on se pose, que je me pose en tant que physicien.
Un demi-siècle s'est écoulé depuis cette merveilleuse découverte, et nous sommes encore bien loin d'avoir achevé de comprendre toute sa portée et d'en épuiser toutes les conséquences. Dans l'histoire des progrès de l'esprit humain, la conquête des quanta et de la constante de Planck restera un mémorable exploit.
La morale de cette histoire, on la trouve dans une phrase de Roland Barthes. Dans son livre « Mythologie », il écrit « L'image est plus impérative que l'écriture, car elle impose sa signification d'un coup, sans l'analyser et sans la disperser ». Fin de citation.